suis le commencement et l'aboutissement de l'humanité. Car personne comme moi n'a existé ni n'existera jamais. Personne comme moi n'est jamais né ni ne naîtra. J'ai dépassé les exploits des ancêtres et les générations à venir ne pourront m'égaler dans aucun de mes exploits au cours de ce million d'années. Le ciel était couvert et la terre mourait de faim sur ce banc de sable d'Apophis. Le sud est venu avec son peuple et le nord avec ses enfants. Ils ont apporté la meilleure huile en échange de l'orge. Mon orge est allé en amont jusqu'à ce qu'il atteigne la basse Nubie et en aval jusqu'à ce qu'il atteigne le nome d'Abidène. Toute la haute Égypte mourait de faim et les gens mangeaient leurs enfants. Mais je n'ai permis à personne de mourir de faim dans ce nome, dans cette province. L'ensemble du pays est devenu comme des criquets en amont et en aval. Mais je n'ai jamais autorisé quiconque dans le besoin à passer ce nome à un autre. Je suis un héros sans égal. Telles sont les paroles du seigneur de guerre Anctifi, gouverneur de province autoproclamé, durant le 21e siècle avant Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir à tous, vie, durée et santé. Nous continuons avec la saga de Muntuhotep II, durant la première période intermédiaire de l'histoire de l'Égypte. Pour récapituler, on est, comme on l'a dit, dans la première période intermédiaire. L'ancien empire s'est effondré, s'est écroulé. Le dernier roi de la sixième dynastie est certainement Pépi II. Après avoir accédé au trône très tôt, dès l'enfance, il s'éteint environ vers 90 ans. Il a régné pendant beaucoup de temps et ce règne atypique lui a causé du tort car il a eu à enterrer plusieurs de ses enfants. Il a survécu à plusieurs de ses enfants, il a dû en enterrer beaucoup. Et ça brise un homme, même lorsqu'on on est roi de la basse et de la haute Égypte, même lorsqu'on se dit Saré, hein, fils de Dieu, on n'en est pas moins soumis aux contraintes de la terre, de voir sa progéniture passer, malheureusement. Et plusieurs événements se sont succédés dans la vie de Pépi II, ce qui fait que ses gouverneurs de province se sont petit à petit désolidarisés de lui. Ils ont pris du pouvoir, ils ont pris de l'embonpoint, et la décentralisation du pouvoir s'est faite de manière exponentielle. Ajouté à cela une crise écologique, les crues du Nil n'étant plus au rendez-vous, les récoltes en ont pris cher et petit à petit, l'Égypte ancienne, la Tamérie, la bien-aimée, s'est effritée, s'est effondrée, un peu comme à l'image d'Osiris qui sera démembré par son frère Seth. L'Égypte aussi sera démembrée, car dans la mythologie égyptienne, le pays d'Égypte était considéré comme le corps d'Osiris et chaque gnome avait une partie de son corps d'après la légende. Et voilà que par le hasard de l'histoire, entre guillemets, l'Égypte était encore à ce rendez-vous osirien, légendaire, où le pays est une fois de plus découpé par les forces du mal et il en revient donc aux descendants, à ceux qui sont de Horus, aux Horiens, aux femmes, à celles qui représentent Isis, de combattre et de faire en sorte que le pays puisse retrouver son éclat, puisse être remembré, puisse être reformé, selon la légende égyptienne, la légende de Tamerî. Nous avons donc commencé de manière assez brutale avec Anctifi. Nous l'avons dit, seigneur de guerre, gouverneur autoproclamé d'un nome, d'une province. Faut se dire qu'à cette époque ou cette étape de la vie d'Anctifi, c'est un vieux seigneur de guerre, hein, mais à l'esprit toujours vif et au corps toujours athlétique. Il s'établit dans un nome qui est ami ou plutôt allié, car en politique il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Il s'allie donc au roi du Nord Et peut-être l'on peut s'imaginer qu'il devient peut-être le mentor, le héros dans l'ombre, ou plutôt l'éminence grise qui, de loin, va tisser ses filets et amener le fameux Mérikarédé, le roi de la haute, de la basse Égypte, vers le côté obscur des choses. Car, comme nous l'avons dit, Mérikarédé avait un père plutôt qui lui a donné une éducation plutôt assez conforme, assez pacifiste, lorsqu'on regarde le papyrus de Mérikarédé ou les enseignements de Mérikarédé. On se rend compte que son père lui inculque des valeurs et surtout une prudence et un regard assez bienveillant envers le sud. Mais ce retournement de veste, ce retournement de situation dans son attitude en attaquant la Haute Égypte, peut-être peut-on se dire que est-ce une influence de Anctifi, même si une relation entre les deux n'est pas vraiment établie, ou n'est pas établie dans les hiéroglyphes, car ici il faut être clair, hein, nous disons lorsque nous faisons une sorte de reconstitution pour essayer de comprendre, nous disons lorsque nous avons des preuves, hein, il faudrait pas essayer de réécrire l'histoire ou d'inventer quelque chose, non. Nous disons quand nous avons les preuves historiques, nous les disons. Il faut dire que la chronologie égyptienne est extrêmement compliquée, surtout tout ce qui vient avant la 18e dynastie, c'est extrêmement compliqué. On est encore dans des espèces de bricolage de chiffres ou de date. Donc même sur Mentouhotep, ce n'est pas encore très bien établi. Il y en a même qui disent que c'est peut-être Mentouhotep 1, peut-être 2, peut-être 3. Ce n'est pas encore très très clair. Les dates aussi ne sont pas encore super claires. Par exemple, Mentouhotep, il y en a qui vont le poser vers 2020. Il y en a qui vont le poser un peu plus tôt ou tard que ça. Donc il y a encore des hypothèses à ce niveau-là. Donc, nous allons dire lorsque nous allons parler d'événements ou de faits où nous avons les preuves, et lorsque nous allons essayer de, comment dire, de reconstituer les choses, nous le dirons aussi. Hein, il ne faudrait pas essayer de réécrire l'histoire à son image. Hein. Donc, il faudrait plutôt dire quand c'est une hypothèse et dire quand ce sont des faits avérés. Donc, Anctifi est placé vers la 10e dynastie. Pour certaines personnes, certains égyptologues, mais il faut dire que avec Mentouhotep, on est dans la 11e dynastie. Donc on a les deux dynasties qui apparemment sont concomitantes ou qui se côtoient. Donc la 10e dynastie au niveau du nord et on a la 11e dynastie avec ce qu'on appelle les rois thébains, hein, qui sont au niveau du sud. Ceux du nord, c'est Héraconpolis, mais il faut dire que c'est un nom qui est grec. Quand vous entendez polis, vous savez déjà que c'est la Grèce. Donc ce sont des noms qui sont assimilés au règne des Grecs, c'est-à-dire quand les Grecs sont venus, ils ont redonné un autre nom à ces territoires-là. Donc on peut bien prononcer ces noms-là, mais il faut se rendre compte que ce n'est pas les vraies prononciations que nous avons. Même Thèbes, c'est un mot qui est hellénisé, hein, les anciens Égyptiens ne le prononçaient pas comme cela. Donc Anctifi, seigneur de guerre, vaillant chasseur devant Sekhmet, nous le dirons. Eh ben, s'allie, comme nous l'avons dit, au roi du Nord. Dans le Nord, nous avons Mérikarê, et le nom de Ré est celui qui nous renvoie directement à Dieu, hein, au disque solaire. Il faut nous rappeler encore qu'une fois que lorsqu'on enseigne l'Égypte, on les voit à genoux devant le soleil, devant un aigle. Ce n'est pas qu'il prie l'aigle, ce n'est pas qu'il prie le soleil. C'est une image de la même façon que, par exemple, dans les textes bibliques, on a dans le livre de Malachie, on dit que Dieu est le soleil ailé. Et nous savons très bien que le soleil ailé, le soleil avec des ailes, c'est une image, une icône qui est typiquement égyptienne. Qu'est-ce que ça fait en plein livre de Malachie? Eh bien, nous expliquerons tout cela lorsque nous commencerons le grand dossier sur les relations égypto-bibliques. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera bientôt et on a du lourd, du très très lourd. Donc, cette image du soleil avec des ailes est une image que l'on retrouve aussi bien dans l'Égypte que dans les récits bibliques, donc dans le royaume d'Israël. Et ces ailes sont assimilées justement aux ailes de l'aigle, parce que l'aigle, c'est justement l'image de Dieu, parce que c'est ce qui est très haut. Hein. Voilà pourquoi chez nous, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale, on parle de Nkolo. Quand on parle de Dieu, on parle de Nkolo. Et directement, on a une dérivée qui donne Nkulu, Nkulu, qui est une dérivée de Horus. Nous en avons déjà parlé ici. Donc, nous disions que les rois du Nord, et je répète aussi que parmi les quatre êtres vivants dans les écrits bibliques, on a un aigle. Hein, on a qui s'expliquait d'où ça vient, de ça venait tout ça. Alors, au niveau du Nord, nous avons donc Mérika Ré. Ré, lorsque l'on voit Ré, Ré a pour fille Sekhmet ou aussi Bast ou Bastet. Donc, l'on peut se dire que la bataille qui est sur la terre est aussi une bataille des dieux, car lorsque l'on repart dans le prédynastique, dans la fameuse saga du prédynastique, la fameuse conquête du sud vers le nord, nous avions plusieurs tribus. Et c'est Adolphe Joseph Reinach, un égyptologue français qui en parle beaucoup dans son Égypte préhistorique, ce livre paru en 1908, où il parle vraiment de cette épopée-là de Chemsou-Or, des Horiens, de ces rois du sud, du fin fond de l'Afrique qui montent vers le nord, appelés par leurs frères Osiriens, qui ont fait appel à eux à cause de la tribu des Sétiens qui aurait attaqué les nomes des Osiriens. Et après, justement, la défaite de leur roi Osirien, ils feront appel aux Horiens pour pouvoir les aider. Et on peut se dire qu'après cela, la fameuse légende d'Osiris tué par son frère Seth et vengé par son fils, le fils d'Osiris, donc Horus, et au fait, simplement, une sorte de narration de cette époque, de cette tragédie, de cette guerre qui s'est passée pendant le pré-dynastique. Donc, une guerre, donc, et ces différentes tribus-là avaient donc des totems, avaient des dieux. Ces totems-là étaient représentés par des animaux, souvent, comme les Horiens, c'était justement l'aigle ou les perviers. Et il y avait aussi des tribus qui étaient représentées par le loup, par le chien, Anubis, et on sait le rôle qu'a Anubis dans la guerre contre Seth, par exemple. La légende, par exemple, de la panthère, hein, c'est Seth qui se transforme en lion. Horus, qui vole dans le ciel, n'arrive pas à le voir. Seth est un lion, un félin, qui par son pelage, par sa couleur, se confond avec le sable du désert, hein, la couleur orange du lion. Et tout d'un coup, Anubis, qui est un chien ou un loup, va se promener sur les rives du Nil, ses pattes étant mouillées ou salies par la boue du Nil, eh bien, va voir Seth caché dans le désert afin de pouvoir tromper Horus. Tout d'un coup, il bondit sur lui et le frappe de ses pattes. Et c'est ainsi que le corps du félin sera tacheté des pattes noires ou boueuses d'Anubis. C'est ainsi que ce félin deviendra une panthère, donc avec des taches noires. C'est ça la légende en fait de la naissance de la panthère. En tout cas, l'une des légendes. L'autre légende, c'est qu'Anubis avait pris une lance et avait commencé à le frapper. Une lance peut-être marquée au fer rouge, avait commencé à le frapper, et d'où les points noirs, les taches noires sont apparues. Donc ça, c'est dans la légende de Seth, Anubis et Horus. Donc, dans le prédynastique, il y avait plusieurs tribus qui avaient des totems, et c'était une guerre de totems, une guerre de dieu aussi, hein, si on peut appeler ça comme ça, une guerre du divin. Donc, sautons vers le Moyen Empire, revenons au Moyen Empire, eh bien, nous avons une guerre entre le Nord et le Sud. Le Sud qui est représenté par Muntuhotep, donc qui se place sur le signe de Muntu, hein, qui est l'image de Dieu, hein, sous son aspect d'aigle. Et au Nord, l'on peut s'imaginer que Mérika Ré s'aligne donc sous Ré, donc Dieu, le disque solaire, représenté par le disque solaire. Mais dans la mythologie égyptienne, Ré a une fille, et sa fille c'est qui? C'est Sekhmet, et aussi Bastet. Alors, si dans le sud, Muntuhotep attaque avec cette image de Muntu, hein, Muntu, nous l'avons dit, c'est l'image de Horus avec une tête d'aigle, mais avec deux longues plumes sur la tête, un cobra, un diadème de cobra sur le front, et un bâton oise, celui de Seth sur la main, donc le dieu guerrier, hein. Et l'on peut se rendre compte que justement son adversaire direct sera Sekhmet ou Bastet, qui se représente par une tête de lionne avec une couronne solaire sur la tête. Et on sait aussi que Horus a une couronne solaire sur au-dessus de la tête. Donc c'est cette guerre entre Muntu contre Sekhmet, ou alors Muntu contre Bastet, car Bastet aussi est une divinité lionne du Nord. Nous l'avons dit, ce sont des concepts extrêmement profonds dans l'histoire égyptienne, à tel point que ça a même des répercussions jusque dans nos sociétés d'aujourd'hui. Nous l'avons parlé lorsque nous parlons du coronavirus, que par un jeu de mots, par une sorte de coïncidence, si vous voulez, eh ben cette attaque solaire, quand on a parlé de l'influence du soleil sur les virus et les cycles de maladies et des pandémies qui se répètent tous les 10 ans, et qu'apparemment il y aurait peut-être une activité solaire qui serait liée à l'activité des virus et des pandémies, et que par jeu de mots, les anciens égyptiens comprennent que s'il y a un tel virus qui se manifeste peut-être par l'activité solaire, eh bien nous devons avoir des plantes sur la terre qui devraient pouvoir nous protéger ou nous guérir de ces choses. Alors on va donner au nom de la plante l'entité que l'on croit qui peut vaincre cette maladie-là. Voilà pourquoi on va donner par exemple au Congo Bololo, hein, ou le Vernonia, le nom de Nkulu Nkulu. Nkulu qui est la transidération de Horus, Horus qui est lié à Muntu. Et donc Muntu, Horus qui se bat contre Sekhmet lorsqu'elle est envoyée par Ré pour purifier ou punir la terre, eh bien c'est la seule personne qui peut la calmer, c'est Horus, et Muntu qui peut faire la guerre contre elle. Donc au niveau humain, nous avons donc, lorsque le virus attaque, nous avons donc quelle plante qui peut contre-attaquer, c'est le Nkulu Nkulu, c'est-à-dire le Vernonia, c'est-à-dire le Congo Bololo. Et nous rappelons que Nkulu Nkulu, c'est le nom de Dieu aussi chez les Zoulous. Donc vous voyez tous ces traits mythologiques qui ont aussi une réalité dans ce que nous vivons aujourd'hui. Donc observation des anciens dans le passé et manifestation encore aujourd'hui dans le présent. Coïncidence? Peut-être, 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 peut-être. Qui sait? Revenons à notre histoire, à la guerre. Nous disions donc ici, à partir de ce moment où Mericaré décide d'attaquer Abydos, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, la guerre froide du désert s'arrête. Car notre l'une des premières émissions que nous avions eue s'appelait la guerre froide du désert. Pourquoi guerre froide du désert? Tout simplement parce que lorsque le père ou les pères de Mericaré et les pères de Muntuhotep ont pris le pouvoir, il s'en est suivi de guerre, certainement, mais il y a aussi une période de paix, surtout sous Intef III et Kéti III, c'est-à-dire le père de Mericaré et le père de Muntuhotep. Il y a eu une période de guerre froide, c'est-à-dire que il y avait conflit entre les deux, mais ils avaient établi un cessez-le-feu. On se regardait en chien de faïence, mais il y avait une sorte de course aux armements aussi secrète peut-être. Mais la guerre était froide, froide comme le vent du désert la nuit. Alors cette trêve, cette guerre froide prend fin lorsque Mericaré, peut-être, nous disons bien peut-être, influencé par le vieux seigneur de guerre impitoyable Anctifi, qui avait pris position pour la 10e dynastie contre la 11e dynastie, eh bien peut-être sous les conseils corrupteurs du vieux Anctifi, ce dernier, Mericaré, ce rebelle décide de frapper au cœur de l'histoire de Thèbes, au cœur de la Haute Égypte, c'est-à-dire Abydos. Abydos qui était la fierté du père de Muntuhotep, Abydos qui était la cité où l'on enterrait les pharaons, Abydos qui était certainement la cité où on a enterré les plus illustres. Osiris, par exemple, est enterré à Abydos, mythologiquement parlant. Hein. Narmer est enterré à Abydos. Donc, vous voyez, Narmer qui était le héros, avec le héros de Muntuhotep. Donc, cité vraiment symbolique pour Muntuhotep, non simplement parce que c'est la fête et la fierté de son père, mais aussi que ses héros étaient enterrés là. Osiris était enterré là. Narmer était enterré là. Donc, lorsque l'on frappe au cœur, à l'esprit, eh bien, on peut se rendre compte que cela va complètement déboussoler les princes thébains. Thèbes, qui rappelons-le, est la capitale de la Haute-Égypte, donc de Mountouhotep et de ses acolytes. Sous le conseil certainement d'Anctifi, ou peut-être plutôt d'Anctifi, qui lui dit que si tu veux frapper l'esprit d'un homme, bien, il faut aller au cœur. Eh bien, c'est ce que Mericaré et ses forces font. Ils vont frapper le cœur de la Haute Égypte. En parlant de frapper le cœur, nous lisons qu'ici, il s'est attaqué au cœur pour atteindre l'esprit des princes thébains afin de les affaiblir. Comme vous le savez, notre émission, notre show, c'est d'utiliser le passé tout en nous référant à l'actualité afin de pouvoir donner naissance à une nouvelle mentalité. Et l'actualité, la semaine passée, a été du moins ponctuée par la Chine, nos amis, entre guillemets, chinois, qui ont eu un comportement qui a révolté la toile, l'opinion publique, car on a vu des images assez révoltantes, choquantes, s'il faut le dire, d'Africains pris, délogés, accusés de propager le coronavirus, et tout le monde a aussi donc crié au loup, disant qu'on ne nous aime pas, mais qu'est-ce qu'a fait l'homme africain, finalement on ne nous aime pas, partout à gauche on nous dit qu'on veut nous exterminer, qu'on veut nous contrôler les populations. Le Nigeria aurait une population supérieure aux États-Unis, apparemment c'est une abomination. Ça c'est de l'Occident. À l'Orient, on nous dit que nous propageons le coronavirus, on déloge les Africains et on les arrête. On se rend bien compte donc que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Cela étant dit, nous devons nous rappeler ici que nous avons un algorithme, que nous avons un plan, que nous avons le livre de Robert Greene que nous suivons, et ces principes vont nous aider, vont nous servir de fil rouge, de fil conducteur, pour pouvoir explorer l'histoire africaine et en tirer les leçons qui doivent nous servir dans la vie d'aujourd'hui. Car nous avons dit, l'histoire de Mountouhotep va nous servir de clé pour pouvoir résoudre la crise qui arrive et qui est déjà là. Nous sommes dans l'ère du Verseau, nous sommes dans l'ère de la Lionne. Il nous faut donc nous armer jusqu'aux dents de science, comme nous le disait le fameux professeur Cheikh Anta Diop. Alors, dans l'une des lois de Robert Greene que nous avons étudiées ici, notamment lorsque nous parlions de la guerre des cinq empereurs avec le fameux Septimus Severus, nous avions exploré une loi qui disait qu'en temps de guerre, il ne faut pas sombrer dans la panique, ou dans la tempête, au milieu de la tempête, il ne faut pas sombrer dans la panique, car nous savons que c'est dans l'œil du cyclone que nous avons le moment de paix. C'est à l'intérieur du cyclone, c'est dans l'œil du cyclone qu'il y a cette oasis là dans laquelle nous pouvons nous réfugier et ne pas être débordés ou embrouillés par ce qui se passe tout autour. C'est dans l'œil du cyclone que nous avons la réponse, c'est-à-dire c'est dans la sérénité, c'est dans la paix, c'est dans le calme, disons. Donc lorsque tout semble s'écrouler, s'effriter, eh bien nous devons faire un effort pour rester calme afin de pouvoir réfléchir avec cohérence. Alors, face à ces images troublantes que nous avons tous eu à voir, j'ai contacté un ami qui habite en Chine, plus précisément à Beijing, donc Pékin, et qui me dira ceci. Je lui pose la question, mes chers amis, que devons-nous croire que de ce que nous voyons? Nous savons que les médias ont souvent tendance à exagérer les choses, alors j'aimerais avoir l'information à la source. Que se passe-t-il? Et mon ami est africain. Voilà ce qu'il me dit en inbox. Alors, il dit, chaque opération dirigée par les policiers connaît toujours une exagération du traitement. Cette situation s'est passée en Guangzhou, donc Canton, mais je vis à Beijing, donc Pékin. Il y a tellement qu'il y a beaucoup d'étrangers, les mafias sont officialisées entre Africains, Chinois et policiers. Donc il dit qu'il y a là-bas des mafias qui sont organisées entre Africains, Chinois et policiers, ce qui se fait partout. Les grands bénéficiaires sont les Nigériens. Bon, c'est ce qu'il dit. Un Nigérian atteint de coronavirus avait tabassé une infirmière qui voulait l'isoler en quarantaine. C'est le nœud du problème. Waouh. Les grandes décisions sont imposées pour neutraliser les Africains. Il y a eu un débordement des mesures d'application par les policiers et la situation était très tendue. Actuellement, les Africains ont quitté leur lieu de confinement, mais beaucoup d'entre eux sont atteints et se cachent car ils manquent des documents avec risque de propager la maladie. Waouh. Nous, les Africains, voulons toujours imposer nos mauvaises habitudes à l'étranger. Nous devons collaborer avec eux, donc les Chinois. Les autorités ont politisé cette affaire et d'autres mesures importantes seront mises en application après le confinement. Bref, l'Afrique doit changer sa mentalité et se faire respecter. Donc, nous voyons ici que notre ami qui est en Chine nous dit ceci, qu'il y a eu les débordements qui sont passés, car il y a eu un Nigérien qui a eu aussi un comportement peu recommandable envers une infirmière. Et vous savez, lorsque on entend ce genre de nouvelles, eh bien, on va toujours exagérer et les autorités ont eu à contre-attaquer de leur manière et à exagérer la riposte ou du moins la solution du problème. C'est-à-dire que il y a certainement des Africains qui sont atteints, comme il y a plus de Chinois qui sont atteints que d'Africains, mais on va faire passer les Africains pour la peste, on va faire passer les Africains pour les boucs émissaires, alors qu'on oublie que le virus vient d'ailleurs, qu'il y a un laboratoire curieux à Wuhan là, qui fait des études sur le coronavirus. C'est pas eux qu'on va attaquer en premier, hein. Mais non, c'est les Africains. Mais évidemment, les Chinois ont voulu résoudre un problème qui se passe aussi dans la communauté africaine. Et il y a eu des débordements, et ça a été politisé, et voilà, les choses ont été gonflées, exagérées sur ce terrain-là. Mais ce qui nous interpelle ici, c'est de raconter qu'il y a aussi eu une faute africaine. Il y a aussi une part de responsabilité africaine, comme ce Nigérien qui aurait tabassé une infirmière. Et cela a entraîné aussi certaines connaissances. Et il y a aussi un traitement qui est fait par rapport à ces Africains. Tout comme il y a aussi un traitement qui est fait par rapport aux Chinois. Donc l'ami conclut, il disait que nous devons donc changer de mentalité. C'est-à-dire la manière dont aussi les gens se comportent. Il y a des gens aussi qui se cachent, qui ne veulent pas déclarer qu'ils sont malades. Donc il y a cette part de responsabilité. Mais qu'il faut aussi savoir se faire respecter. C'est parce que nous ne sommes pas respectés que justement les Chinois agissent de la sorte et ne veulent pas résoudre ce problème avec respect envers nous, mais qu'ils veulent le résoudre avec toute la brutalité, parce qu'ils savent justement que les Africains n'ont pas la force de frappe nécessaire ou de dissuasion pour pouvoir les remettre dans leur rang. Alors d'où vient toute cette haine, cette rage envers les Africains? Car beaucoup se sont plaints dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a 2 semaines passées, c'était de l'Occident que venaient les fameux deux docteurs, dont le docteur Mera, qui disait qu'il fallait faire des tests en Afrique. Et ça suscitait un tollé. Mais comment peut-on dire ça? C'est du racisme. Parler aux Africains de haut, ainsi de suite. Et avant ça, il y avait eu toutes ces différentes vidéos, images, montages. Quand je dis montage, c'est-à-dire que c'est des images qui sont réelles, mais qu'on a justement mises ensemble pour pouvoir défendre un point de vue ou montrer un point de vue sur ce que l'Occident pense de la démographie africaine. Donc, voyez, nous en avons parlé dans l'émission précédente où la démographie africaine gêne et où nous rendons compte qu'il y a pour ceux qui ne le savaient pas du moins ou ceux qui dormaient, se rendre compte que le racisme existe, hein. Et on a pu voir que de l'Occident, il y a eu un discours qui donne déjà depuis très extrêmement longtemps contre l'Afrique, contre sa démographie, contre sa population, qui a donc, comme je le disais, fait un tollé les semaines passées. Et maintenant, plus récemment, c'est maintenant au niveau de la Chine que l'on se rend compte aussi qu'il y a un traitement très abject sur les Africains. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'élévation en tout cas des Africains, que ce soit au niveau de l'Occident ou de l'Orient, ou de l'Orient et de l'Occident. On se rend compte que des deux pôles du monde, eh bien, il y a une image négative de l'Afrique. Alors, d'où vient cette image? Car beaucoup sont en train de pleurer. Ah, on nous aime pas, en Occident, on dit ça, il y a le racisme, on pensait que c'était fini avec le docteur Mera, et maintenant c'est la Chine, mais finalement. Donc, les gens se réveillent et ne comprennent toujours pas que nous sommes dans un monde où il faut avoir de la stratégie. Alors, mais pour résoudre un problème, il faut d'abord en connaître la genèse. Alors, d'où est partie cette image que le monde a du monde noir, des civilisations noires, des peuples noirs. À tel point que les gens s'auto-culpabilisent, se disant « Mais qu'est-ce qu'a fait l'homme noir? Qu'est-ce qu'a fait la femme noire pour mériter tout cela ?» Voulant obligatoirement s'injecter une faute, pensant que ce serait une sorte de vaccin, car vous connaissez le principe du vaccin, on va prendre l'agent pathogène qu'on va affaiblir et qu'on va mettre dans le corps pour que le corps puisse savoir se défendre, et ainsi on sera complètement ou partiellement immunisé. Hein? Donc on veut s'injecter comme ça un vaccin, reconnaissant la faute, comme ça on va pouvoir avancer. Il est à se rappeler qu'il est important justement de connaître la genèse d'une chose pour pouvoir la résoudre. Nous avons parlé ici du fameux problème ou du fameux phénomène d'Endera. Nous en avons parlé. Comment le fait qu'on prononce un mot et cela change. Lorsque nous parlions du nom des 9 niveaux de l'âme égyptienne, nous disions que le changement des mentalités était lié aussi au fait de la cause et de l'effet. Nous en avons parlé dans une émission précédente. Nous avons parlé de cette psychologue ou psychanalyste qui allait dans la généalogie pour comprendre ce qui s'était passé dans l'histoire des familles afin de pouvoir le résoudre. Vous vous rappelez de l'histoire qu'on avait partagée avec vous à propos de cette personne dont les descendants ne faisaient qu'échouer au baccalauréat. Ils avaient compris ce qui s'était passé dans leur histoire et c'est ce qui avait permis de corriger les choses. Donc, il y a des choses qui se passent, des fautes qui peuvent être commises dans une famille, dans un pays, dans un peuple, et qui amènent une sorte de malédiction. On en a parlé des malédictions de famille, qui peuvent paraître un sujet assez, non terre à terre, complètement superstitieux. Mais ceux qui défendent ce point de vue ont-ils déjà eu à travailler avec des psychologues et des psychanalystes qui s'intéressent à ces questions, ou ceux qui s'intéressent à la parapsychologie? Avons-nous déjà lu toute la littérature sur ça pour pouvoir avoir une opinion? Mais on va simplement vouloir jouer au entre guillemets cartésien et dire oh c'est de la superstition. Donc non, nous devons faire nos recherches avant de pouvoir avoir un point de vue, d'avoir un point de vue définitif et avoir l'humilité de sur certaines questions de dire oh je n'ai pas fait des recherches là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Mais nous souvent ce que nous disons c'est je n'y crois pas. Et c'est là où on devient même pire que le superstitieux, justement parce que l'on donne une opinion sans avoir fait des recherches. Donc on met la foi, on met la superstition, c'est-à-dire ce qui n'est pas basé sur les faits, pour pouvoir donner une opinion. Et voilà, on est ce que l'on veut éviter, on est ce que l'on veut juger. Donc, nous revenons donc sur les faits. Qu'est-ce qui est la faute de l'homme noir? Qu'est-ce que la faute de la femme noire? Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Eh bien, moi je dirais tout simplement, pas plus que ce que les autres ont fait. Parce que l'on veut se trouver une certaine faute. Tout le monde a des fautes, mais l'on veut se trouver une faute, un péché cardinal qui ferait que les Africains n'avanceraient pas plus que les autres. Non, l'Africain n'a pas fait plus de fautes que les autres peuples. Et comprendre cet acharnement envers les populations africaines, c'est simplement de connaître l'histoire, comment les choses ont commencé. Nous avons dit ici que l'histoire a commencé en Afrique, l'humanité a commencé en Afrique, la civilisation a commencé en Afrique noire, et que les populations noires sont à la base de la première civilisation au monde, qui n'est pas l'Égypte, mais qui a commencé bien avant la Tamérie, c'est-à-dire au niveau fin fond de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs, où plusieurs foyers de civilisation se sont répandus à travers l'Afrique, et qui se sont cristallisés ensuite dans la vallée du Nil avec la Tamérie, avec les Chemsou-Or, avec Narmer, avec les royaumes dynastiques, mais surtout aussi prédynastiques avant eux. Et ces foyers de civilisation vont se répandre à travers la terre, notamment dans la Palestine, en Mésopotamie, où il y aura encore un autre foyer de civilisation nègre, noire, qui s'établiront à ce niveau-là. Les squelettes retrouvés le prouvent, la culture disséminée à ces endroits le prouve, et Diodore de Sicile et les autres le diront justement que ce sont des endroits qui ont été colonisés par des Africains, des Égyptiens, ou des Rémétous, des Bantous, des Noirs africains qui sont placés à ce niveau-là. Et ces populations iront peupler le reste de la Terre. Voilà pourquoi on retrouve des populations noires en Australie, les aborigènes. Voilà pourquoi on retrouve les populations noires en Inde, les fameux dravidiens, ou encore ce qu'on appelle l'île Sentinelli. Vous vous rappelez une histoire? Il y a une île en Inde qui est interdite, où les populations noires, très noires, habitent, où dernièrement un prêtre s'est fait tuer. Hein, un homme, un prêtre ou un soi-disant pasteur évangélique qui voulait aller évangéliser ses peuples et qui s'est fait, comment dire, trucider, hein, par ces peuples-là qui veulent rester encore indépendants. Et ces peuples-là, noirs, ont des cheveux crépus, hein, crépus, comme les populations africaines, ce qui prouve qu'il y a eu des migrations, il y a eu des peuples qui sont répartis un peu partout sur la Terre. Que ce soit donc en Inde, autour de l'Inde, très loin, comme en Australie. Même en Amérique du Sud, avec les Olmecs, on voit bien des têtes africaines noires qui sont là. Donc, les populations ont eu à vivre dans ces contrées-là. En Europe, en Asie, hein, je conseille le fameux livre de Rachid Hirunoko, Histoire millénaire des Noirs en Asie. Hein, je répète le livre, Histoire millénaire des Noirs en Asie, hein, écrit par Rachid Hirunoko. Et qui montre, qui parle de long et en large de la présence africaine en Asie, hein, en Asie du Sud-Est et même en Chine, même au Japon, il y avait une présence africaine très tôt. Car nous l'avons dit, le premier être humain à être apparu sur la Terre, c'est entre moins 200 000 et moins 300 000. Et de moins 200 000 à moins 300 000, jusque vers moins 10 000 ou moins 6 000. Nous n'avons que les populations noires, car les populations dites blanches, à peau blanche et dont les os sont ceux des Cro-Magnons, ou qui sont vraiment caucasiennes, si on doit le dire comme ça, apparaissent vers moins 13 000, moins 10 000 avant Jésus-Christ, peut-être même voire moins 6 000, d'après certaines recherches dont nous avons déjà parlé ici. Donc ce qui veut dire, c'est que pendant des centaines de milliers d'années, il n'y a eu que des hommes noirs et des femmes noires sur la Terre. Alors, ces populations ne sont pas restées statiques, elles ont bougé, elles ont émigré, elles se sont répandues partout sur la Terre. Alors, posons-nous la question. Si les êtres humains se sont répandus partout sur l'Afrique, partout sur la surface du globe, car être noir, ce n'est pas simplement être en Afrique, car beaucoup vont maintenant, après, vont changer l'histoire et se créer leur propre mythologie lorsque les populations vont se former. Voilà pourquoi on peut croire que l'homme est apparu peut-être instantanément avec les différentes races sur toute la Terre. Les Chinois vont se trouver un ancêtre chinois. Les Européens vont se donner un ancêtre européen. Les Indiens vont se donner un ancêtre primordial européen. Les Berbères vont se donner un ancêtre primordial berbère. Ce qui est faux, en tout cas dans les mythologies, c'est ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est faux, parce que dans l'histoire, la science va nous dire que toutes les personnes étaient noires, africaines, à la base. Mais ces populations se sont répandues partout sur la Terre. Alors, question. Toutes ces populations noires qui étaient sur les autres continents, où sont-ils passées? On retrouve encore les aborigènes d'Australie, heureusement. Car ils ont été massacrés, mais heureusement, il y en a encore un petit groupe qui reste. En Afrique, évidemment, les populations noires sont toujours là. Au nord de l'Afrique, on les a fait presque disparaître. Ils sont toujours là en Australie, ils sont toujours là dans la périphérie de l'Inde, dans l'île Sentinelli ou Sentinelle. En Inde, ils sont toujours là, les Dravidiens, mais au sud, hein, on les a mis dans les castes des plus paupérisés, alors que dans les plus vieilles légendes indiennes, les dieux sont aussi noirs. Donc, qu'en est-il des populations noires au niveau de la Chine, les populations noires au niveau du Japon, les populations noires au niveau d'autres pays, comme dans les Philippines ou d'autres pays encore d'Asie du Sud-Est, là, on trouve encore des populations qui sont très foncées, noires. Je vous invite à faire vos recherches. Où sont les populations noires qui étaient en Amérique du Sud? Où sont les populations noires qui étaient en Russie? Et dans tout autre pays, comment ça s'appelle? Dans la Palestine? Où sont les populations noires qui étaient au Liban? Où sont les populations noires qui étaient au niveau de la Méditerranée, hein, sous déjà à l'époque même des Romains, hein, Septime Severus, Septime Sévère. Où sont les noirs qui étaient les morts, les fameux morts qui étaient arrivés avec les Arabes? Où sont les noirs qui étaient là à la préhistoire, dans l'Antiquité, les noirs qui sont répandus, les noirs du Moyen Âge, où sont tous ces noirs qui étaient dans ces différents continents? Parce que pendant des centaines de milliers d'années, nous avons dit qu'il n'y avait que des noirs. Donc, où sont donc ces noirs qui se sont répandus partout sur la Terre? Évidemment, nous savons que beaucoup ou leurs descendants ont eu à changer, car toutes les populations sont noires à la base. L'être humain est noir à la base. Mais ensuite, il a changé, il s'est adapté à son environnement. Sa peau a changé. Nous avons parlé du phénomène de la vitamine D en migrant ou en s'éparpillant dans les zones froides, le corps humain, qui a des capacités extraordinaires, hein, avec le temps, s'est adapté, car les autres dites races, bien que je n'aime pas ce mot, ne sont qu'une transformation, comme disait Cheikh Anta Diop, le blanc n'est qu'un nègre décoloré. Avec le temps, des choses ont changé, il y a eu des mutations. Hein? N'oublions pas qu'il y a le phénomène de mutation dans le corps. Hein? Les corps ont changé, ont muté, probablement aussi par le phénomène d'albinisme et d'adaptation. C'est là où nous avons maintenant d'autres peuples qui ont émergé. Je rappelle que le fait d'avoir des yeux bridés n'est pas le propre des Chinois ou des Coréens ou des Japonais, mais nous rappelons que les Bushmen ont les yeux bridés. Donc on va dire que les Bushmen ont les yeux d'Asiatiques. Non, c'est les Asiatiques qui ont les yeux de Bushmen ou des Khoisan, comme on les appelle. C'est un trait qui vient, physique, qui vient de l'Afrique. Avoir les yeux bridés, avoir les yeux, vous savez, les yeux qu'on dit être asiatique. Ces yeux-là sont des yeux africains, parce qu'on voit les Khoisan ou les Bushmen ont ces yeux-là. C'est africain, ça vient de là. Donc ces traits de culture, ces traits physiques sont africains. Donc, ces populations ont eu à immigrer, sont devenues blanches par mutation génétique, par adaptation. Mais d'autres populations qui étaient sur place ont tout simplement été aussi massacrées, éradiquées. Une fois de plus, j'invite les auditeurs à lire le livre de Rachidi Runoko sur la présence africaine en Asie. Car il y a en Asie, par exemple en Inde, il y a ce qu'on appelle la tribu Jarawa, hein, dans l'océan Indien, dans l'archipel indien, une tribu Jarawa. Et lorsque vous les voyez, ils sont typiquement africains, et même la manière dont ils tirent leurs arcs, la manière dont ils se positionnent, ça rappelle même les peintures rupestres du Sahara, de ces premiers êtres humains qui étaient en chasse. Donc des hommes typiquement noirs, cheveux crépus, mais en Inde, qui font partie de ces migrations d'hommes et de femmes qui ont quitté l'Afrique pour aller explorer. Donc ça casse encore le fameux mythe de l'Africain qui n'est pas enclin à l'esprit d'aventure, à aller explorer. Et comment est-ce que ces peuples-là, la tribu Jarawa est arrivée là-bas? Ce n'est pas en explorant, ce n'est pas en naviguant. Même chose pour les aborigènes d'Australie, hein. Et bon, ça c'est déjà au niveau de la préhistoire. Et plus tard, on sait justement, on va pas se justifier ici, mais l'Afrique a produit la première civilisation, les bateaux, l'exploration, tout ça, l'exploration du monde, parce que le monde était peuplé justement d'Africains. Les Africains ont exploré, non simplement en allant voir d'autres territoires, d'autres continents, mais aussi en inventant, en créant. Parce que d'autres personnes, je crois j'en ai déjà parlé ici, vont prendre ces exemples, oh, mais ces tribus reculées, regardez, ils sont encore entre guillemets primitifs, ils n'inventent pas, parce qu'on leur veut mesurer la valeur d'une civilisation, d'un peuple, par rapport à sa technologie. Et c'est quoi la technologie? Ce n'est que la résolution des problèmes. À quoi bon, pourquoi on crée une mitraillette? C'est pour justement se défendre, certainement pour aller conquérir d'autres peuples. Mais lorsqu'on a une flèche, c'est justement un arc, c'est pour se nourrir, nourrir sa famille. Pourquoi je vais inventer une mitraillette pour aller, pour me nourrir, pour carrément dépecer l'animal, alors que la flèche et l'arc me permettent non simplement de développer mes sens, de ne pas massacrer l'écosystème qui est autour de moi, mais de manger à ma faim et de pouvoir évoluer en équilibre avec la nature. Et c'est cet aspect-là que nous n'avons pas compris. En regardant ces peuples, on dira ils sont primitifs, ils ne sont pas à avancés, mais on ne comprend pas leur vision du monde. On ne comprend pas que ce qu'ils font est écologique, car depuis la révolution dite industrielle, qui avait certainement déjà commencé avec Héron d'Alexandrie, nous l'avons dit, la machine à vapeur avait commencé avec Héron d'Alexandrie, mais c'est un savoir qui s'est perdu et qui a été redécouvert vers le 17e, 18e siècle au niveau de l'Angleterre, si je ne me trompe pas. Et ensuite, cette révolution technologique nous a conduit à la révolution industrielle dans laquelle nous sommes maintenant, avec tout ce que nous avons comme invention, mais qui aussi, dans le même temps, crée toutes ces usines qui nous détruisent notre environnement, notre écosystème, et dont certaines entreprises sans scrupules viennent déverser leurs déchets toxiques en Afrique. Parce qu'une fois de plus encore, c'est la poubelle de l'humanité pour certaines personnes. Donc, l'Afrique a eu cet esprit d'aventure pour aller se loger partout dans l'humanité, dans la planète. Elle a inventé, et a créé des choses en s'associant à d'autres tribus africaines aussi au niveau de la vallée du Nil pour développer certaines choses. Donc, selon l'endroit où ils étaient, les Africains se sont développés comme ils pouvaient. Parce que oui, on a la tribu Jarawa qui est restée à son stade initial là où elle est, mais dans le même moment, en Égypte ancienne, c'était la technologie, c'était la civilisation, c'était les pyramides qui s'est lancée. Parce que c'est un peu comme dire que, étant donné qu'à New York, on a des blancs à New York qui ont construit ce qu'ils ont construit à New York, eh bien, ça veut forcément dire que tous les blancs la Grèce doit aussi forcément aussi avoir le même niveau de développement, alors qu'on sait que l'économie de la Grèce est en faillite, ou encore je ne sais pas moi la Biélorussie, ou je ne sais pas moi quel autre pays d'Europe de l'Est, ou la Birmanie doit forcément aussi avoir un niveau de développement aussi à avancer. Ou comme on dit, les Japonais sont asiatiques, les Asiatiques sont intelligents. Mais ça veut dire que tous les pays asiatiques, il n'y a pas de pauvreté dans les pays asiatiques, tous devraient avoir le même niveau. La Birmanie devrait être un pays aussi super développé comme le Japon ou comme les États-Unis ou l'Europe. Donc la couleur de peau n'est pas ce qui définit le développement, non, c'est un creuset de culture, c'est un mélange de plusieurs conditions. Le timing est important, l'environnement est important, les personnes qui se mettent ensemble, toutes ces choses sont importantes pour pouvoir aussi expliquer le développement. Car il ne suffit pas simplement de prendre le modèle économique américain pour aller le greffer au Togo ou au Congo pour que cela se marche automatiquement. Ou prendre ce que les Japonais font, aller le greffer en France pour que ça marche. Parce que la France a des problèmes économiques, l'Italie, l'Espagne. Pourquoi l'Espagne ne prend pas simplement le modèle économique japonais et l'applique chez elle? Il y a des problèmes culturels, vous voyez. Donc c'est un problème pluridisciplinaire qui demande aussi une approche de solution pluridisciplinaire. Donc, nous parlons donc des êtres humains qui se sont établis dans toute l'histoire, sur toute la planète, mais qui, dans beaucoup de cas, ont mystérieusement disparu de ces continents. Pour quelles raisons? Eh bien, lorsque ces personnes étaient conquérantes, ça peut attirer la jalousie des autres qui veulent les remplacer. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. L'Égypte en est la preuve. Il y a eu plusieurs dynasties. Il y a une qui règne et puis il y en a une autre qui va remplacer. Ensuite, cela étant dit, nous devons nous rappeler qu'il y a eu plusieurs incursions de tribus ou plutôt de populations étrangères en Égypte, en Afrique. Car l'Égypte étant la première civilisation au monde qui s'est superbement développée, cela a entraîné la jalousie et la curiosité d'autres populations. Petit à petit, ils infiltreront l'Égypte. Petit à petit, ils viendront étudier l'Égypte. Petit à petit, ils attaqueront l'Égypte et prendront sa connaissance pour aller la répliquer, la recopier en noir et blanc dans leur cité et ensuite en couleur. Donc, cela étant fait, pendant plusieurs années, l'Afrique sera attaquée, premièrement ou significativement avec les Hyksos, mais bien avant ça, déjà sous la période intermédiaire, il y avait aussi des incursions asiatiques, et même vers à l'époque des Chemsu-Or, il y avait déjà des incursions aussi asiatiques qui se sont produites. Alors, pendant des millénaires et des millénaires, ils ont essayé de faire tomber l'Égypte, jusqu'à ce qu'ils arrivent magistralement pour la première fois avec les Hyksos, et ensuite, cela va, bien que les Égyptiens vont reprendre le dessus, mais après, ça va encore après plusieurs années ou plusieurs centaines d'années, ça va se reproduire avec les Assyriens, avec les Babyloniens, avec les Perses, avec les Grecs, avec les Romains, avec les Arabes, avec les Anglais, avec les Français. Donc, à plusieurs reprises, les terres d'Égypte sera envahie, et toutes ces populations, toutes ces envahisseurs vont toujours ramener chez eux ceux pour lesquels ils étaient les artefacts et la connaissance et la science égyptienne. Napoléon repart avec un obélisque, les Anglais repartent avec les artefacts égyptiens, le British Museum est rempli d'artefacts égyptiens. Donc toutes ces populations, les Arabes, les Grecs aussi avec Alexandre le Grand, les Ptolémées, vont tous s'abreuver des eaux du Nil, de la connaissance d'Osiris, d'Osaré, de Thoth, de Djéhouti, pour pouvoir construire leur philosophie. Nous savons par exemple que la franc-maçonnerie est construite sous le principe de Thoth, ce qu'on appelle celui qu'on appelle Hermès Trismégiste, Hermès qui est le comment on appelle, qui est au fait le messager, hein, qui est le messager. Et en passant, Hermès qui est un messager, qui est représenté avec un homme avec des ailes sur ses chevilles, et calqué sur le modèle de, nous l'avons dit, de Djéhouti, de celui qu'on appelle Thoth, donc il est le messager. Et nous savons par exemple qu'au Gabon, nous avons comme un signe du pays un perroquet. Pourquoi un perroquet? Parce que le perroquet, c'est le messager. Et le messager, c'est qui? C'est Hermès, c'est Thoth, c'est Djéhouti. Et vous savez, au Gabon, vous connaissez aussi l'histoire de la maçonnerie, là-bas aussi, au niveau des élites, au niveau de la politique. Donc ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est une image africaine, hein, donc le perroquet qui parle, parce que le perroquet est l'un des rares animaux qui a le don de parole, hein, ou du moins d'imitation de parole, un peu comme le corbeau aussi, si beaucoup de gens ne savent pas. Certains corbeaux peuvent parler. Oui, certains corbeaux peuvent aussi parler, on ne sait pas beaucoup ça, mais certains corbeaux peuvent parler. Donc, ou du moins imiter le son de même des voitures, des moteurs, c'est assez intéressant. Et c'est les animaux les plus intelligents, les corbeaux. Donc les corbeaux, le perroquet, qui a le don de parler, hein, donc le corbeau perroquet, il y a une certaine, au niveau des symboles, il y a une correspondance. Donc cet animal symbolise, Hermès symbolise la connaissance, hein, c'est un animal qui symbolise la connaissance, qui est le messager. Donc c'est un animal qui n'est pas anodin, c'est un symbole puissant. Hein, c'est cet animal-là, ce symbole-là, c'est un animal. Mais bon, on ne peut pas dire plus que ça, on va se limiter là, il y a des choses qu'on n'est pas autorisé à révéler ici. Bon, bref, nous continuons en disant, le peu qu'on peut révéler, c'est peut-être de dire que le Gabon faisant partie du royaume Congo, qui est donc localisé au niveau de l'ouest de l'Afrique. Nous rappelons que dans la pensée africaine, l'ouest est lié à l'au-delà. Donc et l'ouest est lié un peu comme à la basse Égypte, comme la basse Égypte c'était comme le royaume de l'au-delà, et la haute Égypte, le sud, c'était la terre. De la même chose, nous avons par exemple le fleuve Congo qui, au niveau de la RDC, va de l'est en ouest. Donc nous avons le haut Congo qui est au niveau de l'est, et le bas Congo qui est au niveau de l'ouest, où on trouvait le royaume Congo qui était lié aussi au Gabon. Donc c'est là où on a les messagers, c'est là où les prêtres habitent, ou les chamans africains, avec le mot chaman, vous savez, donc là les prêtres africains se sont, hein, et c'est donc là où les messagers sont, donc ceux qui reçoivent les messages, parce que c'est au niveau de l'ouest, c'est au niveau de la basse Égypte, donc le bas Congo, hein, le bas Congo avec K. Donc c'est là où les prêtres sont, c'est là où les temples sont, tout comme en haute et en basse Égypte, c'est là où il y avait la grande pyramide, c'est là où il y a les grands temples, parce qu'on sait que c'est là où c'est l'au-delà. Donc c'est au niveau de l'ouest où on retrouve donc ceux qui sont en connexion avec l'au-delà. Voilà pourquoi vous verrez que la plupart des rites initiatiques qui sont à ce niveau-là sont connectés à l'au-delà. Hein, c'est là où les gens qui se font initier sont, hein, bien que c'est aussi dans les forêts, des pygmées, tout ça, mais au niveau de l'ouest là, il y a aussi ces connaisseurs là. Et voilà pourquoi ça va entrer avec ce qu'on appelle l'Ibouga, tout ça, ceux qui en prennent, ils peuvent avoir les connaissances. Donc les messagers sont là, voilà tout ce que je peux dire, c'est ça, c'est que au niveau du Gabon, au niveau du Congo, tout ça là, au niveau de l'ouest, c'est là où sont les messagers. Voilà pourquoi vous avez l'insigne du perroquet, tout ça. Donc c'est les messagers, ce sont les messagers qui sont là. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup d'écoles qui sont là et qui au fait sont des écoles des messagers. Donc on forme des messagers, on forme des gens qui ont accès à la connaissance, qui reçoivent les messages, hein, de l'au-delà, du divin, et qui arrive. Voilà pourquoi on a l'image de Thoth, d'Hermès, hein. Donc on a ce sont des messagers, hein. Ceux qui sont là sont des messagers, reçoivent des messages, la connaissance pour pouvoir l'appliquer dans la terre ici. Donc bref, on se limite là. Donc c'est ainsi que dans toute l'histoire, dans tout le territoire africain, on a des foyers de connaissance, des foyers de sagesse, des foyers de construction qui ont permis à la civilisation de perdurer et de se maintenir et d'établir un peu la sagesse un peu partout. Mais alors, comment se fait-il que cette civilisation sage de l'Afrique aujourd'hui soit diabolisée telle qu'elle est maintenant? Nous disons, comme nous l'avons dit, qu'à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs foyers d'invasion en Afrique. Et là, nous avons dit que tous ces envahisseurs ont pris ce qu'il y avait en Afrique et sont partis les remettre, les placer dans leur pays, hein, notamment avec dernièrement, en tout cas dans l'histoire, avec les Anglais, avec les Français, Napoléon qui ramène ce qu'il a pris en Afrique pour le ramener au niveau de l'Europe et établir par exemple les bases de la franc-maçonnerie sous par exemple Thoth, et on retrouve, comme on vous a dit, que ces choses sont des principes qui sont même jusqu'au niveau du Gabon ou du Congo, et voilà pourquoi vous pouvez trouver certaines explications dans les emblèmes même du Gabon ou du Congo. Et c'est parce que justement il y a une unité culturelle de l'Afrique. Cheikh Anta Diop en a parlé, il y a une unité culturelle entre ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe en Égypte. Je vous invite même à lire le livre de Wallace Budge, à Sir Wallace Budge, qui a écrit beaucoup sur l'histoire africaine, sur l'histoire égyptienne. Il a écrit un livre sur Osiris où il comparait les cultures et les traditions et les rites africains, hein, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, avec le culte d'Osiris, avec ce qui se faisait en Égypte. Donc le livre de Wallace Budge. Donc je crois que c'est Osiris et la résurrection. Si vous lisez ce livre-là, et Wallace Budge était un grand égyptologue qui reconnaissait les origines noires de la civilisation égyptienne et qui a écrit un très très bon livre, un livre très très complet sur Osiris et les mythes qui se passent et les rites africains. Et ça lui aurait même valu le fait d'être un peu écarté, mais alors que lui connaissait la vérité. Donc que ce soit la maçonnerie, que ce soit toute autre confrérie, vous comprenez les liens qu'il y a avec les rites africains, avec les rites d'Afrique centrale. Nous l'avons donc démontré, nous avons donné les sources qui démontrent ces choses, mais nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin. Si des choses ont été dites par Badge, oui, on peut donc les révéler, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on doit se limiter. Donc bref, c'est un peu ça que l'on peut dire. Donc ces gens ont pris beaucoup de choses de l'Afrique pour aller développer leur nation. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà dès l'Antiquité, à cause de cette envie de l'Égypte, beaucoup d'Hébreux par exemple sont entrés en Égypte et sont repartis avec ces connaissances-là, on en a beaucoup parlé ici. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces savants, connaisseurs ou intellectuels d'autres nations vont commencer à écrire sur les Africains de manière péjorative. Déjà à l'époque antique, mais évidemment ce n'était pas une idéologie qui était répandue pour pouvoir mettre en danger les civilisations africaines. Mais petit à petit, ce travail d'écriture va prendre de l'épaisseur. Et voilà pourquoi, si vous faites vos recherches, le temps nous manque maintenant de vous détailler la liste, par exemple, des commentateurs bibliques, des rabbins qui ont écrit sur la fameuse malédiction de Cham, qui n'a pas lieu d'être, et qui, au contraire, ont mis des notes en disant, voilà, c'est à cause de ceci, de cela. Et petit à petit, cette malédiction va prendre de l'épaisseur au fil de l'histoire. Il y a des textes hébreux, des légendes hébreuses qui vont commencer en disant, voilà, ils ont été transformés parce qu'ils étaient, Cham est devenu noir. Ce qui n'a pas de sens parce que on sait que les Égyptiens sont les premiers des hommes. D'après les Grecs même, les textes grecs savaient même déjà que les Éthiopiens étaient les premiers des hommes. Donc, l'homme est né noir. Il n'est pas né blanc et devenu noir ensuite. Mais on se rend compte qu'il y a cette littérature-là qui commence déjà à ce niveau-là. Dès la préhistoire, dès l'Antiquité. Et beaucoup plus tard, avant l'esclavage, bien que les Maures étaient établis déjà dans l'Andalousie, Espagne, Portugal, et en Europe déjà. Donc le statut des Noirs était vu très positivement. Je conseille le livre, donc, Histoire des African Presence in Early Europe. Je ne sais pas si c'est déjà traduit en français, je ne sais pas encore. De Rachidi Runoko toujours. African Presence in Early Europe. Je propose ce livre-là pour voir en fait comment les populations africaines étaient vues positivement, avec les chevaliers africains, les princes africains, les armoiries maures, les armoiries des chevaliers, des princes et des princesses africaines étaient là. Mais après, malheureusement, avant l'esclavage, une campagne de diabolisation sera faite, surtout à travers l'Église, hein, les intellectuels qui vont faire ce travail pour pouvoir diaboliser le monde, et les églises vont servir au fait de point de dissémination de ces idéologies racistes. Le pape Nicolas V qui dira que l'esclavage peut être fait parce que les noirs n'ont pas d'âme. Donc c'est de là que dans l'inconscient collectif, le noir sera diabolisé, sera mis en chaîne pour prendre ses richesses. Car déjà vers le Moyen-Âge, Mansa Moussa, qui était le roi le plus riche de l'histoire de l'humanité, était issu de convoitise, et il fallait donc venir dans ces territoires-là pour prendre les hommes, pour voler leurs richesses. Nous continuerons la prochaine fois. Merci beaucoup. Vie, durée et santé.